Maintenant, je vais présenter notre conférencier de ce soir, Denis Lébihan. Il est donc physicien et radiologue. Il est directeur de l'unité de neuroimagerie anatomo-fonctionnelle, l'UNAF, au Commissariat à l'énergie atomique, le CAE, Service hospitalier Frédéric Joliot. Il est donc directeur de cette unité depuis 1999. Il est également directeur de l'Institut d'imagerie neurofonctionnelle depuis l'an 2000. Pour ce qui est de son parcours, je mentionnerai quelques dates. Tout d'abord, entre 1987 et 1994, il a été chercheur associé au National Institute of Health à Bethesda aux USA. Entre 1989 et 1996, il a été professeur assistant de radiologie au Georgetown University Hospital à Washington. Et entre 1990 et 1994, il a été responsable de la section diagnostic radiology research au National Institute of Health à Bethesda aux États-Unis. Pour ce qui est de ses spécialités, Denis Lébihan a contribué au développement de nouvelles méthodes d'imagerie permettant notamment l'étude du fonctionnement cérébral. Ses travaux ont consisté à introduire de nouveaux concepts d'imagerie, par exemple en imagerie par résonance magnétique, IRM, et à appliquer ces concepts. Avec ses collaborateurs, il a par exemple été l'un des premiers à suggérer que l'IRM pourrait être utilisé de manière thérapeutique et non simplement de manière diagnostique. Il a ainsi construit un prototype de système d'hyperthermie à visée antitumorale guidée par IRM. Il a également inauguré de nouvelles approches dans le domaine de l'imagerie du cerveau humain et c'est de cela qu'il va nous parler ce soir. Denis Lébihan a publié plus de 180 articles dans des revues spécialisées nationales et internationales. Il est membre de plusieurs comités éditoriaux et éditeur associé de Human Brain Mapping. Il a reçu de nombreux prix, je vais en citer un certain nombre. En 1991, il a reçu le prix Greenfield de l'American Association of Physicists in Medicine, la APM. En 1994, il a reçu le prix de la Société européenne de résonance magnétique en médecine et biologie. Et en 2001, la médaille d'or de l'International Society of Magnetic Resonance in Medicine. Il est membre correspondant de l'Académie des sciences. Voilà. Denis Lébihan, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi suivra un débat avec le public d'une vingtaine de minutes. Je vous remercie.
Merci. Bonsoir. Déjà, je voulais remercier l'Université de tous les savoirs de me donner l'opportunité de partager avec vous effectivement ce que nous sommes en train de faire pour voir le cerveau penser. Donc, peut-être ce qui vous a attiré ce soir ici, c'est cette phrase. Voir le cerveau, peut-être que vous vous doutez qu'on peut faire des images du cerveau, que le cerveau pense, je suppose que vous le savez aussi, mais voir le cerveau penser, c'est peut-être un petit peu mystérieux. Alors, d'abord, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au cerveau et pourquoi est-ce qu'on doit faire des images du cerveau? L'enjeu est bien sûr considérable. Comprendre le cerveau, on est très loin d'y être arrivé, c'est voir comment il est organisé, quel est le code qui préside à son fonctionnement. Les conséquences évidentes sont médicales, chirurgicales, c'est-à-dire pouvoir comprendre des maladies du cerveau qui peut-être ne se voient pas aujourd'hui, les anomalies du fonctionnement du cerveau, ou comme vous le verrez dans les exemples que j'ai choisis, d'aider le chirurgien à préciser son geste en cas d'intervention. Mais ça va bien au-delà de tout ça. Je pense que de comprendre le cerveau humain, comme j'essaierai de vous le montrer, a une conséquence encore à plus long terme, qui est essayer de voir comment les cerveaux interagissent entre eux, communiquent, comment est-ce qu'on apprend une langue étrangère, comment est-ce qu'on permet à différentes sociétés de s'écouter, de se tolérer. Tout ça va être le résultat des conséquences et des conséquences de nos recherches sur le cerveau. Alors, en gros, le cerveau humain, ben c'est ça, c'est un organe qui fait un peu plus d'un kilo. Il y a une différence de poids entre les hommes et les femmes, je passe sur les détails. Et ce cerveau, donc vous voyez, est extrêmement plissé. Je suis breton et je le compare souvent aux côtes bretonnes. Et la raison est la suivante. Dans le cerveau, nous avons la cellule fondamentale qu'on appelle le neurone, et il y a environ 100 000 millions de neurones dans un cerveau standard, certains plus, certains moins, bien entendu. Et ces neurones sont principalement localisés dans un petit ruban qu'on appelle le cortex, ou la matière grise, qui tapisse ce cerveau. Ce ruban fait 2 à 4 mm d'épaisseur. On trouve encore un petit peu de matière grise au centre du cerveau, mais ces 100 000 millions de neurones sont pour la plupart sur la surface. Donc, si on ne veut pas avoir un cerveau énorme, eh bien, il a fallu que le cerveau se plisse. Et on verra tout à l'heure pourquoi c'est important. Ces neurones, ce qui surtout les caractérise, c'est qu'ils vont communiquer entre eux. Chaque neurone a en moyenne 10 000 connexions avec ses congénères. Et ces connexions se font par des sortes de fils, si vous voulez, donc qui partent de ces neurones et qui vont aller se promener pour faire diffuser l'information à d'autres régions du cerveau. Ce sont des fils électriques, en quelque sorte, et ces filaments constituent ce qu'on appelle la matière blanche. Alors ça, c'est ce qu'on dit en général. Ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que sur Terre, il y a 6 milliards de cerveaux. Donc on étudie le cerveau humain, mais bientôt, on étudiera vraiment la façon dont les cerveaux interagissent. Donc certains ont pu dire que le cerveau était la structure la plus complexe de l'univers connu, ce qui est sûrement vrai. Surtout si on imagine le nombre de combinaisons possibles, chaque cerveau est différent. Je vous rappelle aussi qu'on a découvert récemment l'ensemble du génome humain, c'est-à-dire le nombre de gènes, et là, il faut être très humble, on a trouvé 30 000 gènes, beaucoup moins que ce que l'on croyait avoir. Et 30 000 gènes, c'est un certain nombre, 99% de ces gènes sont communs avec le chimpanzé. Donc, il n'y a pas une grande différence au point de vue des gènes, mais j'ai quand même l'impression que l'homme et le chimpanzé diffèrent par plus qu'1%. Et je crois que la façon dont le cerveau est organisé est certainement une des clés de l'énigme. Alors, c'est très compliqué, on est loin d'avoir compris le cerveau, mais il faut quand même garder en tête, si j'ose dire, que les trois quarts de notre cerveau sont faits d'eau. Donc le cerveau, c'est beaucoup d'eau. Et on va voir au cours de tout cet exposé que c'est grâce à cette eau qu'on va pouvoir commencer à comprendre le cerveau humain. Alors, le cerveau est organisé en régions. Il a un fonctionnement régional. C'est un petit peu la mode en ce moment dans le pays, mais c'est vrai que c'est comme ça que ça marche. Alors, comment est-ce qu'on sait tout ça? Eh bien, il faut revenir à ce papyrus. Pour ceux qui lisent l'égyptien couramment, vous pouvez reconnaître ici le mot « cerveau ». Il s'agit d'un papyrus qui date de 3500 ans avant Jésus-Christ et qui décrit, c'est un papyrus qui a dû être écrit par l'ancêtre du neurochirurgien, qui décrit de façon étonnante qu'un guerrier blessé au niveau de la tête avait un trouble du langage. C'est vraiment quelque chose de considérable. Ce n'était pas du tout évident à l'époque que le langage venait du cerveau. Ensuite, on a une période obscure, Moyen-Âge, Renaissance, où on voit déjà l'ancêtre de nos scanners, donc où on essaye d'obtenir les pensées de ce pauvre malheureux, mais en fait, aucune découverte majeure n'est faite. Il faut attendre la découverte du chirurgien français Paul Broca, 1863. Ce chirurgien travaillait à l'hôpital de Bicêtre, pas très loin d'ici, et il a eu ce patient, M. Le Borgne, qui avait comme surnom Temps. Alors, ce patient avait ce qu'on appelle aujourd'hui une aphasie, c'est-à-dire qu'il avait un trouble pour parler. Il ne pouvait rien dire, en gros. Comment vous appelez-vous? Temps. Quelle heure est-il? Temps. Voilà, donc c'est tout à fait caricatural. Et M. Broca a attendu patiemment, pas très longtemps, le décès du patient, récupéré son cerveau et regardé ce qui se passait dans ce cerveau. Et là, c'est une découverte fondamentale. Il s'est aperçu de deux choses. Tout d'abord, que la lésion était... il y avait une anomalie dans ce cerveau qui était à un endroit bien précis, pas n'importe où dans le cerveau, dans une région qui s'appelle bien sûr aujourd'hui la région de Broca, mais qui est dans ce qu'on appelle le lobe frontal. Donc déjà, pour la première fois, on mettait en évidence qu'une lésion, parce qu'elle était à un endroit donné, était responsable d'un trouble fonctionnel particulier. La deuxième grande découverte, qui a été confirmée parce que M. Broca a eu une dizaine de patients par la suite, c'est que ces lésions du langage, ces lésions entraînant des troubles du langage, étaient toujours situées du côté gauche du cerveau. Jusqu'à cette époque, on pensait que cerveau gauche, cerveau droit, c'était la même chose. Eh bien non, les troubles du langage venaient de lésions qui étaient du côté gauche du cerveau. Et depuis cette découverte, donc, on sait que le cerveau est organisé en régions. C'est ce qu'on va revoir au cours de mon exposé. Donc, il y a une région ici, par exemple, qui spécialise dans le calcul, les régions qui servent à voir, des régions qui servent à lire, etc. etc. Donc, le but du jeu de notre travail, dans une première phase, est d'essayer de faire une cartographie de toutes ces régions cérébrales. Alors, en fait, on a déjà beaucoup appris du fonctionnement du cerveau avant d'avoir des images. C'est tout ce qu'on appelle la période, qui continue bien sûr, de l'étude des patients cérébro-lésés. Donc c'est la suite des travaux de Broca. Vous avez des patients qui ont un trouble fonctionnel, ils ne peuvent plus bouger, ils ne peuvent plus calculer, ils ne peuvent plus parler. Et bien sûr, il faut récupérer le cerveau. Et à partir de ce cerveau, on peut dire que ce patient ne pouvait plus calculer parce que ici, il manque quelque chose dans ce cerveau. Alors là, c'est une image moderne. On sait que ce patient, il lui manque de la matière grise à cet endroit et que c'est pour ça qu'il ne peut plus calculer. Mais à l'époque, jusqu'aux années 1970, on obtenait donc par autopsie le cerveau de ces patients et on pouvait dire qu'il y avait une relation entre la lésion et le trouble fonctionnel. Bon, le problème, évidemment, c'est qu'il faut récupérer le cerveau. Donc, ce n'est pas toujours facile, pas toujours possible. Et sur le plan scientifique, c'est que la position des lésions est absolument hors de contrôle. C'est la nature qui décide où sont les lésions. Elles sont souvent toujours au même endroit, alors qu'il y a d'autres endroits intéressants. Et puis, curieusement, il y a des zones qu'on appelle muettes, c'est-à-dire des zones où il peut y avoir une lésion, mais apparemment aucun symptôme. D'où la révolution de l'imagerie qui est apparue dans les années 70, c'est-à-dire l'apparition du scanner à rayons X et des imageurs par résonance magnétique. Alors, je ne sais pas si c'est très bien connu, mais le scanner rayons X et l'IRM ont été inventés pratiquement en même temps. Le scanner rayons X a été diffusé plus rapidement, l'IRM plus tard, mais les principes ont été imaginés assez proches l'un de l'autre. Donc, avec l'imagerie, on est capable de faire une dissection virtuelle par l'image. Autrement dit, on n'a plus besoin d'attendre le cerveau du patient, on n'a plus besoin du tout d'ailleurs. On peut simplement, du vivant du patient, faire des images de son cerveau et montrer où se trouve la lésion. Alors là, ce sera très utile aussi aux patients et aux médecins qui le soignent pour savoir où se trouve la lésion. Là, il s'agit à nouveau du cerveau de M. Le Borgne, qui est conservé dans un musée ici, pas loin d'ici, qui a été passé en IRM par M. Cabanis, et on voit effectivement la lésion responsable à l'époque de l'aphasie de M. Le Borgne. Donc vous voyez l'intérêt de l'imagerie, déjà dans un premier temps, c'est de pouvoir montrer où se trouve la lésion. Alors, pour cela, donc il y a le scanner à rayons X, et puis l'imagerie par résonance magnétique, et toute la suite de mon exposé va porter sur l'imagerie par résonance magnétique. Donc je vais vous expliquer en très peu de temps et avec très peu de mots de quoi il s'agit. Je suis quasiment certain que certains parmi vous ont déjà eu un examen par résonance magnétique, mais donc j'explique de quoi il s'agit. Voilà à quoi ça ressemble. Donc une machine qui est ici, qui est en fait un aimant extrêmement intense, on verra vers la fin de l'exposé ce que ça veut dire, donc une sorte de tunnel, et pour fabriquer un champ magnétique aussi intense, eh bien, on ne prend pas un aimant de couturière, c'est sûr, on prend quelque chose de beaucoup plus puissant, et pour cela, on va faire circuler un courant dans une bobine, et l'ensemble ici est placé dans l'hélium liquide à moins 269 degrés. Rassurez-vous, au centre, c'est la température de la pièce, sinon les patients auraient un petit peu froid. Donc, on place les patients ou on verra tout à l'heure des volontaires, des gens qui sont tout à fait bien portants, dans cet aimant. On va les rentrer. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va les rentrer dans l'aimant? Eh bien, rappelez-vous ce que je vous ai dit, le cerveau, c'est fait d'eau, aux trois quarts. Eh bien, les molécules d'eau, si vous rappelez vos cours de physique, chimie, oxygène, hydrogène, ces noyaux atomiques de ces atomes vont s'aimanter. Dans le champ magnétique, c'est surtout l'atome d'hydrogène qui nous intéresse. Donc, l'aimantation est extrêmement faible, on ne sent absolument rien, bien entendu, mais dans le champ magnétique de l'aimant, les noyaux d'hydrogène vont devenir un petit peu aimantés. Très bien. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec cette aimantation? Eh bien, ici intervient un autre élément de la machine, qui est un émetteur-récepteur radio, tout à fait ordinaire. Si vous ne le protégez pas, vous recevez Europe 1 et France Inter, ça fait très cher le poste de radio. C'est pour ça qu'il y a cette grille ici. Vous voyez, c'est une grille qui empêche les ondes de radio de pénétrer dans la pièce. Et avec ces ondes radio, on va pouvoir modifier l'aimantation de ces noyaux et en retour récupérer le signal. Alors, la deuxième révolution, c'est l'informatique. Grâce à l'ordinateur, on va pouvoir, point par point, et déterminer quelle est l'aimantation de ces petits atomes d'hydrogène. Et pour ça, on doit localiser le signal. Et pour ceux qui ont eu un examen IRM, vous savez sans doute qu'il y a beaucoup de bruit. Et je vais vous enregistrer. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe quand vous êtes dans la machine. Alors, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à taper avec un marteau. Bon, c'est pas ça, c'est qu'on a besoin de ce bruit, malheureusement. Enfin, on a besoin, on pourrait s'en passer, mais ce bruit est provoqué par le fait qu'on doit commuter en permanence des petits champs magnétiques. Sur les machines très puissantes, c'est très gênant. Ça peut atteindre plusieurs 120, 130 décibels. Et on doit donc protéger les oreilles de nos patients ou volontaires. Et puis, si vous voulez étudier la musique ou étudier l'audition, vous voyez que ça pose problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces images qui sont d'une précision extraordinaire? Eh bien, bien sûr, détecter des lésions. Vous voyez que même si vous n'êtes pas médecin, vous devinez qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez ce malade ici. Ici, c'est une artère qui s'est bouchée. Et ceci se traduit par le fait que les molécules d'eau, à cet endroit-là, ont du mal à circuler, à diffuser. Donc, toujours l'eau. Tout le long de mon exposé, ce qu'on voit, c'est l'eau. L'examen est anodin et on peut l'utiliser aussi chez la femme enceinte pour voir le fœtus. Donc ça, c'est un travail de recherche qui est fait actuellement avec l'hôpital Necker. Et l'objectif, c'est de voir comment le cerveau se construit. En effet, je vous ai dit que les neurones étaient à la périphérie, mais au départ, les neurones sont surtout au centre du cerveau. Ils vont migrer vers la périphérie et au fur et à mesure, le cerveau va se plisser de plus en plus pour prendre l'aspect des côtes bretonnes dont je parlais au début de l'exposé. Donc, à 27 semaines de grossesse, voilà un cerveau de fœtus, vous voyez qu'il est tout plat et tout lisse. Il n'est pas plat, il est lisse. Et à 32 semaines, on voit déjà apparaître ces plissements. Alors grâce à l'informatique, on peut extraire virtuellement le cerveau du fœtus en train de se construire et le regarder sous tous les angles, voir donc si éventuellement il y a des anomalies qui apparaissent ou pour, sur le plan scientifique, voir comment le cerveau donc, se plisse, à quel endroit ça commence et toutes les anomalies qui s'en suivent. Tout ça, c'est l'anatomie. Mais vous voyez qu'avec l'anatomie, on peut déjà apprendre beaucoup de choses. Comment faire maintenant l'étude de la fonction? Eh bien, on a plusieurs méthodes possibles. Encore une fois, aujourd'hui, je parlerai de l'imagerie par résonance magnétique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres approches possibles. Tout d'abord, l'électroencéphalographie, une variante qui s'appelle la magnétoencéphalographie. Ici, on s'intéresse aux courants électriques qui sont produits par les neurones quand ils se parlent entre eux. Je vous ai dit qu'ils échangeaient de l'information. Eh bien, pendant qu'ils font tout cela, ils émettent des petits signaux électriques qu'il est possible de recueillir. On peut s'intéresser à la chimie du cerveau par ce qu'on appelle la caméra à émission de positons, donc je ne parlerai pas ce soir, mais c'est une méthode qui utilise la radioactivité et qui permet de voir au sein du cerveau, par exemple, ici, les endroits où vont se loger les molécules de dopamine, par exemple. Vous savez, dans la maladie de Parkinson, il y a des anomalies de neurotransmetteurs, et on peut donc étudier si ces neurotransmetteurs sont en quantité normale, anormale, où ils vont se fixer, etc. L'imagerie par résonance magnétique, elle, s'intéresse plutôt à la physique du cerveau, et donc on va décliner ça tout de suite. Donc, je sais faire des images de l'anatomie du cerveau, me montrant avec une grande précision ce qui est dans le cerveau. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui se passe quand, dans une région donnée, j'ai une activation en cours. Eh bien, pour cela, on va utiliser un principe qui est quand même relativement ancien, qui a été décrit par Roy et Sherrington en 1896, qui est qu'il y a un couplage entre l'activation du cerveau local, le métabolisme et le débit sanguin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, comme vous le savez sans doute, le cerveau, il n'est pas tout seul, il est irrigué par un très grand nombre de vaisseaux. Eh bien, si cette région-là se met à travailler, imaginez que ce soit la région liée au langage, dont là je suis en train de parler, donc ça doit s'activer pas mal. Donc cette région-là va fonctionner un peu plus que les autres, et localement, il va y avoir plus de sang qui va arriver. Voilà, donc c'est le principe qu'on va utiliser. Vous voyez que c'est vraiment basique. Sachez quand même qu'on ne sait toujours pas exactement pourquoi il y a une augmentation du débit sanguin dans la région activée, et surtout comment ça se passe. Il y a des théories, mais on n'a pas encore compris vraiment ce qui se passe. Peu importe, si on sait faire des images qui sont sensibles au débit sanguin, on sait faire des images du cerveau qui est en train de travailler. Donc imaginez, ça c'est une image IRM, c'est réel, un volontaire est en train de regarder un stimulus visuel. Eh bien, cette image-là est sensible au changement de débit sanguin dans sa tête, et on voit qu'à l'arrière de son cerveau, le débit sanguin a changé, parce que ce sont les régions qui sont sensibles à la vision. Donc voilà le principe général. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, comment est-ce que l'on fait? Eh bien là, on a affaire à un miracle, encore de la nature, qui repose sur l'hémoglobine. Vous savez que dans le sang, vous avez des globules rouges, et ils sont rouges parce qu'ils contiennent un pigment qui s'appelle l'hémoglobine. Eh bien, ce pigment, chance extraordinaire pour nous qui faisons de la résonance magnétique, contient un atome de fer. Qui dit fer, qui dit aimant, tout de suite on pense qu'il va se passer quelque chose. Eh bien, effectivement, cet atome de fer va peut-être s'aimanter ou se désaimanter dans des circonstances particulières. Alors, en fait, ce que l'on sait, c'est que l'oxygène qui vient par les poumons va se lier à la molécule d'hémoglobine. L'ensemble va circuler dans le sang, arriver dans le cerveau, et là, l'hémoglobine va relarguer l'oxygène pour le cerveau. Eh bien, ce qui a été montré en physique, c'est que l'hémoglobine, quand elle a perdu l'atome d'oxygène, peut se transformer en un tout petit aimant, microscopique. Donc, imaginez la région qui est en train, une région quelconque du cerveau, dans laquelle circulent des petits globules rouges, avec de l'hémoglobine qui a perdu son oxygène. Eh bien, à cause de ces petits aimants, le champ magnétique va être perturbé. On n'a plus les lignes droites de tout à l'heure, maintenant on a des distorsions. Et les molécules d'eau qui servent à faire vos images autour vont se sentir gênées. Elles vont trouver que le champ magnétique n'est pas normal. Et elles vont vous le dire, le signal, je ne rentre pas dans les détails bien sûr, le signal va changer. Donc voilà comment on est capable de détecter ce qui se passe dans le cerveau. Dans une région activée, vous avez plus de sang qui arrive. Et parce qu'il y a plus de sang qui arrive, l'aimantation locale va changer. Alors on va passer maintenant aux exemples. On va commencer par quelque chose de très simple, qui est la vision. Quand on regarde devant soi, les images se projettent à l'arrière du cerveau, sur la rétine. De là, ça part par les nerfs optiques. Il y a un relais dans une structure qu'on appelle le corps genouillé latéral. Ça arrive au fond du cerveau, dans les régions de réception visuelle. Et de là, ça va repartir vers l'avant. C'est comme ça que vous pouvez vous dire, j'ai reconnu ma grand-mère. C'est ce qu'on dit classiquement. Voilà. Alors, quand on fait une expérience d'IRM fonctionnelle, on va mettre quelqu'un dans l'aimant et on va faire des coupes de son cerveau et mesurer donc les variations de signal liées à l'hémoglobine. Eh bien, dans ce cas particulier, vous voyez qu'il y a à l'arrière du cerveau une région qui s'est activée, qui correspond donc à ces aires ici. Notez bien aussi qu'on est capable de voir ici, les tout petits points rouges, les relais. Donc oui, la sensibilité de la méthode, elle est très très grande sur le plan anatomique, on est capable de voir des détails très fins. Donc vous allez voir, c'est une méthode fantastique, qui a fait faire beaucoup de progrès, mais j'en parlerai plus après. Notez tout de suite que c'est quand même pas la méthode encore parfaite. En effet, j'ai représenté dans ce petit rectangle la fenêtre de stimulation. Donc au temps zéro, j'envoie la lumière devant les yeux de mon volontaire, et à 4 secondes, j'arrête. Eh bien, la réponse que j'observe en termes de débit sanguin, liée avec l'hémoglobine ici, vous voyez qu'elle est complètement décalée. Elle commence un peu en retard et elle finit en retard. Il est clair que le cerveau ne travaille pas à cette vitesse. On serait écrasé dès qu'on traverse la route, comme ça. Donc, le cerveau travaille beaucoup plus vite, mais on ne voit pas le cerveau fonctionner directement. Ce qu'on voit, c'est quelque chose d'indirect, qui est le fait qu'il y a plus de sang qui va arriver. Donc, dans une région qui est activée, par un mécanisme inconnu, il va y avoir une demande, donnez-moi plus de sang parce que je suis en train de travailler. Bon, le temps que ça se fasse, ça prend 1 ou 2 secondes, et puis à l'arrêt, donc c'est pareil, le cerveau dit, ça y est, j'ai assez, ben, il faut un petit peu de temps pour que ça descende. Vous voyez donc, c'est une méthode qui va très très bien marcher, mais qui a cette limitation. Alors, ça c'est très simple, c'est une expérience qui a été faite, que j'ai faite il y a une dizaine d'années, juste pour montrer qu'on pouvait pour la première fois voir en direct le cerveau travailler sans rien faire. Autrement dit, la personne est dans l'aimant, juste à regarder de la lumière. On ne lui injecte rien, il n'y a pas de radioactivité, absolument rien. Et vous pouvez détecter dans les régions visuelles qu'il se passe quelque chose. Alors, on a voulu faire mieux maintenant, on a voulu voir ce qui se passe quand on pense. Et donc, ce sont les expériences d'imagerie mentale. Et ces expériences que j'ai réalisées il y a une dizaine d'années aussi avaient pour but de montrer que cette région du cerveau qui sert à voir, qui est une projection du monde visuel. Autrement dit, ce que je vois en haut, ça va en bas, ce que je vois en bas, ça va en haut, et à droite et à gauche, c'est croisé, c'est comme une pellicule photo, donc à l'arrière de mon cerveau. Est-ce que si je ferme les yeux et que j'imagine ma grand-mère, est-ce que cette région du cerveau s'active aussi? Alors, c'était une question scientifique qui était très, très débattue, et la réponse, vous allez voir, c'est que, eh bien oui, cette région du cerveau est aussi impliqué dans l'imagerie mentale. Alors, l'expérience qui a été faite avec une de mes étudiantes, Isabelle Klein, consiste à faire ceci. On va prendre une série d'objets qui sont ici des animaux. Et au temps zéro, la personne est dans le noir, on lui demande d'imaginer un chat. Et elle a 8 secondes pour imaginer ce chat. Après 8 secondes, on lui demande d'arrêter. Et 14 secondes plus tard, on va lui poser une question. Est-ce que le chat a les oreilles pointues? Et le but du jeu, c'est qu'il faut imaginer les oreilles du chat pour deviner que le chat a les oreilles pointues. Ce n'est pas est-ce que le chat a quatre pattes, hein, c'est plus subtil. Bon. Et puis, on a voulu voir si, dans un autre cas, ici, où on demande à nouveau de voir un chat, est-ce que le chat est affectueux? Et là, a priori, pour dire que le chat est affectueux, on n'a pas besoin de voir le chat. Et qu'est-ce qu'on a observé? Ben, à la fois quelque chose qui nous a fait très plaisir et quelque chose qui nous a fait moins plaisir. Ce qui nous a fait très plaisir, donc ça, c'est une coupe du cerveau qui passe par le milieu. L'avant est là, l'arrière est là. Donc ici, c'est la région qui sert à voir la réalité. Eh bien, quand on voit l'image du chat dans sa tête, on active également cette région-là. Donc vous voyez, c'était la première démonstration claire que l'imagerie mentale utilise au moins en partie le réseau utilisé dans la vision réelle. Alors là, on a été un peu moins heureux, mais j'ai supprimé la courbe, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Autrement dit, quand on regarde si les oreilles du chat sont pointues dans sa tête, on active plus son cerveau que si on voit un chat, globalement. Bon, ça, pourquoi pas. Par contre, si on veut voir, si on veut dire que le chat est affectueux, on utilise également cette région du cerveau. Alors là, ce n'est pas du tout ce que la théorie prévoyait. Et bon, il semblerait que certains de nos volontaires nous ont dit, mais pour dire que le chat est affectueux, j'ai regardé les yeux, par exemple, ou je ne sais pas quoi. Enfin, bon, donc voilà peut-être pourquoi on a cette activation. Tout ça pour vous dire qu'une expérience n'est jamais parfaite, il y a toujours des petits problèmes. Alors donc, cette région visuelle, elle sert à voir le monde réel, elle sert à voir le monde imaginaire, et on peut imaginer aussi que il peut y avoir des collisions entre ces deux, donc les mêmes neurones, les mêmes régions, les mêmes neurones on n'a pas encore prouvé, mais les mêmes régions cérébrales voient deux mondes qui sont en parallèle, et on peut effectivement comprendre peut-être pourquoi on voit tous des choses différentes. En permanence, on va superposer la vision du monde réel et nos simulations, nos fantasmes, nos images mentales, et faire la part des choses. Donc on n'est pas très fiable. Autre expérience extrêmement intéressante qui a été faite par un de mes amis japonais, Sadato, a consisté à regarder ce qui se passait chez des aveugles de naissance, donc des gens qui, a priori, n'utilisent pas leur cortex visuel puisque depuis la naissance, ils ne peuvent pas voir. Et il les a fait lire du braille et s'est aperçu qu'en lisant du braille avec le doigt, il y avait une activation des régions visuelles. Donc c'est tout à fait intéressant. On pourrait interpréter ces résultats en disant que le cerveau, il se débrouille bien, puisque quand une région ne sert plus à rien, il l'utilise pour autre chose. C'est ce qui a été dit, en fait. Mon interprétation est différente. C'est que la région visuelle sait faire autre chose, mais ça, on en parlera peut-être une autre fois. Alors, on va changer de sujet, et on va passer à la motricité. Vous savez peut-être que sur le cerveau, on a une organisation aussi dans l'espace des parties du corps. Donc si je regarde ce qui se passe de l'intérieur ici, d'un des hémisphères jusqu'en périphérie, bon, déjà tout ce qui est à gauche commande la motricité de la partie droite du corps et vice-versa. Vous voyez donc que le pied a une toute petite région cérébrale, c'est pour ça qu'on ne joue pas du piano avec les pieds. Et puis vous avez ici une grande surface cérébrale pour la main, c'est pour ça qu'on peut écrire avec la main. Chez le chimpanzé, c'est l'inverse. Et puis, vous avez une grande surface cérébrale qui est impliquée dans la motricité de toute la face, de tous les muscles de la face, pour parler, pour manger, et puis la langue. Vous voyez donc qu'il y a une disproportion, et c'est ce qu'on a appelé l'homonculus. Et il y a quelqu'un qui s'est amusé à voir en trois dimensions ce que ça donnerait. Donc, en gros, on va faire un bonhomme, et on va mettre comme volume, quelque chose qui est linéaire, qui est proportionnel à ce qu'il y a sur le cerveau. Et c'est exposé au British Museum, ça donne ça. Vous voyez donc, on voit tout de suite les régions qui sont importantes chez l'homme et celles qui le sont moins. Voilà. Alors, dans ces expériences d'il y a 10 ans, qui servaient à montrer un petit peu ce qui se passe, eh bien, très simple, on a quelqu'un qui est allongé dans l'aimant, et on va lui demander de simplement de faire ça, pendant 30 secondes, puis il arrête, puis il recommence, puis il arrête, etc. Et ce qu'on a fait ici, c'est une image qui est un petit peu décalé, donc une coupe comme ceci, vous voyez, qui passe par la région qui commande la main. Et on va demander à un ordinateur de nous sortir dans cette image tous les points où le débit sanguin a changé en phase avec les mouvements des doigts. Et il nous trouve cette région-là, qui est la région, effectivement, de commande de la main. Bon, sur le plan scientifique, sur le plan neurologique, c'est pas génial, parce qu'on sait très bien que c'est là que ça se passe, mais c'était la première fois, quand même, que simplement de bouger les doigts, ça suffisait à faire des images du fonctionnement cérébral. Mais on a fait beaucoup mieux. Voilà la même coupe, ici. C'est une autre expérience, mais c'est exactement la même chose. Et on voit donc, quand vous faites ça, le fait que la région de contrôle moteur est activée. Et la région à l'arrière, c'est parce que quand vous faites ça, vous vous touchez la pulpe des doigts, donc vous avez également la région sensitive. Et cette expérience-là est faite en demandant à la personne de fermer les yeux ou pas, peu importe, mais d'imaginer simplement qu'elle bouge les doigts. Alors vous essayerez ce soir, c'est pas facile, mais on peut le faire. Donc sans bouger les doigts, imaginez ce mouvement et la petite sensation. Et qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien que la région qui sert à bouger est aussi activée dans l'imagination du mouvement, de même que la région sensible. Alors, vous savez peut-être que certains sportifs s'entraînent avec le mental training. Les golfeurs, les skieurs imaginent le parcours, le slalom. Et ben, voilà pourquoi, pendant qu'on s'entraîne à faire ce mouvement, eh bien, on active les neurones de la région. Alors, ce que j'utilise beaucoup pour ceux qui n'ont pas le temps de faire de sport, comme moi, eh bien, le soir avant de dormir, vous vous concentrez très fort. Et vous arriverez comme ça à développer vos neurones. Il y a même un article, bon, est-ce qu'il est digne de foi ou pas, qui montre qu'il y a même un développement des muscles. Alors le bodybuilding par la pensée, pourquoi pas. Alors ce travail, donc, il a eu lieu il y a 10 ans, et dans mon équipe, il a été refait récemment par un de mes collègues, docteur Gérardin. Oui, c'est pas Gérardin, c'est Gérardin. Qui s'est intéressé à comparer l'exécution, l'imagination de mouvements simples ou compliqués. Et on fait intervenir une structure qui est au milieu du cerveau, qu'on appelle l'aile motrice supplémentaire. C'est les supplémentaires, ça veut dire que, bon, elle est peut-être importante, mais ce n'est pas aussi capitale que la région qui sert vraiment à bouger. Eh bien, cette région-là, elle a quand même une importance. La preuve, c'est qu'en neurochirurgie, selon que vous allez l'enlever ou pas l'enlever, il y aura des conséquences différentes pour le patient. Alors, avec nos collègues de la Salpêtrière, donc, ils ont fait une étude où, avec des patients qui ont été opérés, vous avez un patient ici, c'est une coupe qui passe très haut dans le cerveau, une tumeur qui va devoir être enlevée. Et vous savez que le chirurgien en cas de tumeur, il enlève un peu plus pour éviter qu'il y ait des cellules cancéreuses qui restent. Donc, maintenant, c'est un protocole de routine, hein, on fait ces images fonctionnelles, donc on demande au patient de bouger ou d'imaginer qu'il bouge, et on va donner au neurochirurgien cette carte. Donc voilà la région qui sert à bouger la main, et voilà la fameuse aire motrice supplémentaire. Et là, le chirurgien, il n'a pas le choix, le pauvre, il est obligé de l'enlever quand il va retirer la tumeur. Résultat, eh bien, le patient a eu pendant plusieurs mois des troubles assez sérieux de la motricité, mais qui ont récupéré. Inversement, chez ce patient-là, également une tumeur qui va être opérée, on voit ici le trou après l'opération, la région de commande de la main, ici, l'aire motrice supplémentaire, elle est très loin de l'endroit qui a été touché, aucun trouble moteur. Donc vous voyez que la neurochirurgie commence à apprécier beaucoup nos travaux. Alors le langage. D'abord le langage et le sexe. Il y a une étude qui a été publiée il y a quelques temps dans un très très grand journal, puisqu'il s'agit de Nature, sur le fait que les hommes et les femmes étaient différents au niveau du langage. Encore, on le savait. Mais ce qu'il a montré, surtout, c'est le problème de l'altérisation. Alors, je vous ai dit que le langage était plutôt du côté gauche, c'est ce qu'a montré Broca. Alors, depuis, on sait que c'est toujours vrai, mais pas à 100%. 85% seulement des gens ont le langage du côté gauche du cerveau, 15% l'ont soit à droite, soit des deux côtés. Si on est ambidextre, qui est mon cas, je me suis testé moi-même, on en a des deux côtés. Eh bien, voilà donc deux images obtenues chez des gens qui sont en train de penser à des mots qui commencent par une lettre donnée. C'est en anglais, mais peu importe. Donc, on cherche des mots dans sa tête qui commencent par P, et ça doit normalement activer la région de Broca. Et vous voyez que chez certaines personnes, on voit cette région, et chez cette personne-là, on voit cette région aussi, mais une autre de l'autre côté. Alors, la convention, c'est une coupe de cerveau, à nouveau, avec l'avant, l'arrière. On regarde par en dessous. Les radiologues ont trouvé ça, bon, c'est comme ça. Donc ça, c'est le côté gauche du cerveau, c'est la région de Broca. Donc, la région de Broca est là, mais vous voyez qu'ici, il y a quelque chose. Alors, d'après vous, où est l'homme, où est la femme ? Voilà la réponse. Donc, d'après cet article, les femmes ont plus de langage dans leur cerveau que les hommes. Ont aussi une répartition bilatérale. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Ça, je vous laisse le soin de vous-même de conclure. Simplement, on peut imaginer quand même qu'en cas de lésion cérébrale, la femme a peut-être plus de chances de récupérer. Autre sujet d'intérêt, le bilinguisme. C'est une étude très intéressante qui a été faite aussi par un de mes collègues à New York et par quelqu'un dans mon équipe, qui est Stanislas Dehaene, dont on reparlera tout à l'heure, a consisté à étudier des gens bilingues, mais différentes sortes de bilingues. Dans ce cas particulier, ils ont regardé des gens qui sont vraiment bilingues, c'est-à-dire ici, par exemple, un Turc qui a émigré à l'âge de quelques mois aux États-Unis, qui a continué à parler turc avec ses parents, et qui a appris l'anglais à l'école et avec ses copains. Donc là, il a une vingtaine d'années. Et on lui a demandé de penser à des mots qui commencent par P, en turc et en anglais. Et ce que l'on voit, c'est la région de Broca, mais vous voyez que c'est pratiquement la même pour les deux langues. Inversement, il a pris des Américains qui ont appris une langue étrangère à l'école, un peu comme nous, quoi. Ici, donc, c'est un Américain qui a appris le français. Et quand on lui fait la même expérience, vous voyez qu'il a deux régions de Broca, une pour l'anglais et une pour le français. Donc c'est extrêmement intéressant. À l'époque, quand c'est sorti, les gens étaient très étonnés. Et la réaction immédiate dans la presse a été de dire, si je dois choisir un interprète, je vous l'envoie d'abord. Ça, vous pourrez me dire s'il est bon ou s'il n'est pas bon. En fait, c'est un peu plus subtil. Il faut bien voir que, dans ce cas particulier, la personne a appris la langue étrangère à un âge plus tardif que l'autre, et surtout avec des méthodes différentes. Donc, il est tout à fait logique de penser que le câblage nécessaire, les régions du cerveau impliquées dans un enseignement de type scolaire et un enseignement de type immersion sont différents. Ça n'a rien à voir avec la capacité de la personne à être très, très bonne dans une langue étrangère ou pas. Donc, encore une fois, on fait de plus en plus d'expériences, de plus en plus fines, vous allez voir jusqu'où on va, mais l'interprétation doit toujours être discutée, voire remise en question en permanence. Alors, l'étude du langage, c'est très, très important aussi en pratique médicale. En effet, je vous ai dit que le langage était en général du côté gauche, mais pas toujours. Alors imaginez le problème du neurochirurgien qui doit opérer un morceau de cerveau, retirer un morceau de cerveau chez quelqu'un, et que ce soit du côté du langage. Le risque, c'est que le patient ne puisse plus parler. Alors, je vais vous montrer donc ceci est utilisé aujourd'hui, en particulier chez l'enfant. En effet, il existe malheureusement des cas où des enfants épileptiques ne réagissent pas au traitement médical. Les médicaments ne marchent pas. Et si ces crises sont vraiment trop invalidantes, il n'y a pas d'autre solution que d'opérer pour isoler la région du cerveau d'où vient l'épilepsie, voire même d'isoler un hémisphère en entier. Si on isole l'hémisphère où il y a le langage, ça peut être catastrophique. Alors voilà ce que l'on fait nous maintenant. C'est avec Catherine Chiron et Lucie Hertzpanier, Saint-Vincent de Paul et Necker, on passe ces enfants, il s'agit d'un garçon de 12 ans, dans notre machine, on lui demande de penser à des mots qui commencent par une lettre pour les grands, ou un nom d'objet, de jouet, d'animal, ou même maintenant on commence à simplement raconter des histoires. Et ce qu'on voit par exemple chez cet enfant, c'est clairement il y a une activation du côté gauche, beaucoup plus que du côté droit. Donc on peut dire chez lui que le langage est à gauche. Malheureusement, ce n'est pas toujours aussi simple. Quand je suis revenu des États-Unis, le tout premier patient qu'on a eu, à titre expérimental, puisque j'avais testé la méthode aux États-Unis, mais elle n'était pas encore validée, surtout en France. Donc, il nous est arrivé ce patient qui a une maladie absolument horrible, la maladie de Rasmussen, qui est une sorte de destruction locale du cerveau. Donc, ce garçon a commencé à avoir des crises d'épilepsie à 5 ans et demi. Ça s'est aggravé, le traitement médical ne marchait pas, et s'est posé la question de la chirurgie. Les tests utilisés en pratique clinique suggérait que le langage était chez ce garçon du côté droit du cerveau. Et le chirurgien nous a demandé, comme ça, vous pouvez nous dire où ce que vous voyez. Et nos tests ont montré que, en fait, le langage était du côté gauche du cerveau. C'est ce qu'on voit ici. Donc ça, c'est l'avant et l'arrière, donc côté gauche. Et la maladie est commencée du côté gauche. Donc, dilemme pour le chirurgien. Si je perds le côté gauche, d'après les tests classiques, ça va. D'après ce que nous, on avait fait, il risquait de rendre l'enfant aphasique. Alors ça a pris du temps. L'enfant a été opéré à plusieurs reprises et est arrivé ce que nous on prévoyait malheureusement, à savoir qu'il a perdu la parole après l'intervention du côté gauche. Mais là, il s'est passé quelque chose d'extrêmement intéressant. Cet enfant a commencé à récupérer petit à petit. On voit le trou fait par le neurochirurgien. Donc tout le côté gauche du cerveau est isolé, hein, c'est vraiment complètement, il n'y a plus aucun câble qui passe du côté gauche au côté droit. Cet enfant a petit à petit repris la parole, repris la lecture, et on l'a passé plus récemment dans notre aimant, et on s'est aperçu que le langage était passé du côté droit du cerveau. Autrement dit, le cerveau a utilisé toute sa plasticité pour redévelopper le langage du côté où il n'était pas au départ. Voilà, c'est assez miraculeux. En général, on admet que 6 ans, c'est la limite extrême à laquelle ce genre de plasticité peut apparaître. Mais pour vous dire que parfois, ça peut durer un peu plus longtemps et que le cerveau est quand même quelque chose de formidable. Alors, donc, vous voyez, je ne vais pas vous donner 500 exemples. C'est ce qu'on essaie de faire une carte des différentes régions du cerveau qui sont en train de s'activer. Et finalement, on en est exactement au même stade que quand les pionniers ont essayé de découvrir le Nouveau Monde à travers donc, leur course en bateau. Je vous rappelle quand même qu'on étudie aussi l'eau hein, dans le cerveau. C'est toujours l'eau le vecteur dans l'histoire. Et on essaie de découvrir ces nouveaux continents. Mais c'est très important. À mon point de vue, ça ne suffit pas. C'est pas moi. Non, bon. Je l'ai éteint. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de voir s'il y a un code neural et quelle est sa nature. En effet, il y a un code génétique, ben, il est connu. Il y a sûrement quelque chose qui explique la façon dont l'information est codée dans le cerveau et comment elle circule. Alors, je ne vais pas vous détailler cette expérience qui est compliquée, mais Stanislas Dehaene, dans mon équipe, s'intéresse beaucoup à cette question. Et la technique a bien sûr énormément progressé, devenue extrêmement souple. On peut maintenant passer un volontaire dans un aimant et le soumettre à toute une série de tests. Par exemple ici, tests de calcul, des tests d'orthographe, des tests où il va montrer avec son doigt, où il va prendre quelque chose. Vous voyez, et essayer de comprendre, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans cette région-là. Et là, ça devient très intéressant, puisqu'on voit des régions qui sont communes à ce qu'on observe chez le singe, à savoir qu'il y a des régions qui servent à attraper, qui sont très en avant, près de la motricité, les régions qui servent à voir, et entre les deux, les régions qui servent à pointer. Parce que pour pointer, il faut bouger, mais il faut voir où on va mettre le doigt. Donc tout ça, c'est commun au singe. Par contre, on voit des régions qu'on ne trouve pas chez le singe, la région du calcul et la région du langage. Alors, ce que veut faire Stanislas Dehaene, c'est d'aller encore plus loin, c'est d'essayer de comprendre la conscience, puisque c'est effectivement quelque chose qui est quand même assez propre à l'homme. Et je vais vous donner deux expériences qui ont été faites dans le cadre d'études de la conscience. La première avec la lecture, la deuxième avec le calcul. Alors, je pense que c'est un peu compliqué, donc je vais prendre mon temps. Ce qu'on va faire, c'est présenter un mot sur un écran d'ordinateur pendant un temps très court, vous voyez, 29 millièmes de seconde. Et ce que l'on sait, c'est que si ce mot est présenté en sandwich devant des petits dessins aléatoires, vous n'avez pas conscience du mot. Autrement dit, dans cette expérience où je monte un masque, rien, un masque, un mot caché, un masque, ben vous avez vu le masque, mais vous ne savez pas que vous avez vu un mot. Donc pour vous, il n'y a pas de mot. Par contre, si je vous mets un blanc, ici, de 71 millièmes de seconde, entre les deux, entre chaque côté de l'apparition du mot, même si le mot a été flashé pendant 30 millièmes de seconde, vous avez vu le mot et vous l'avez lu. Vous dites, c'est Lyon. Voilà, donc la question est de savoir si, est-ce que dans ce cas-là, le cerveau a vu quelque chose ou pas ? Même si vous ne le savez pas. Et là, est-ce que c'est différent de là ? Alors, on a fait des expériences, et voilà le résultat. Dans le cas des masques, des mots masqués, autrement dit, vous n'avez absolument pas conscience d'avoir vu un mot, eh bien, nous, on peut voir que le cerveau était activé dans une région qui sert à lire. Autrement dit, votre cerveau s'est préparé à lire un mot, et puis abandonné parce que ça a été trop court, et s'est dit, bon, ça ne va pas être très important. Mais lui, il a vu le mot, et il vous a dit, bon, laisse tomber, c'est pas grave. Par contre, dans le cas où le mot a été encadré par ce blanc, vous l'avez vu, et là on s'aperçoit que la même région est activée, mais beaucoup plus forte, mais surtout qu'il y a d'autres régions qui sont apparues, et qui font donc que bah, le cerveau s'est dit « oulala, là il y a un mot à voir », et il va vous le dire, vous êtes conscient d'avoir vu ce mot. Donc vous voyez qu'il semblerait que la conscience, c'est simplement que bah, en permanence on est en train de faire un tas de choses, et je bouge les mains pendant que je parle, là, je ne suis pas en train de me dire « bon, je vais mettre la main comme ça, puis non, je ne pourrais plus parler hein, ». Donc en permanence, il y a des tas de choses qui se passent dans notre cerveau, et puis, bon, bah, ça reste très localisé. Et puis à un moment donné, pour une raison quelconque, il y a un organisateur central qui va mettre en lien un certain nombre de régions et faire apparaître dans le champ de conscience quelque chose. Alors si on prend cette région qui est ici, voilà ce qui se passe quand on est inconscient, et voilà ce qui se passe quand on est conscient du stimulus. Donc vous voyez qu'on est non seulement en train de voir le cerveau penser, Mais on est en train même de voir le cerveau faire des choses que vous ne savez pas qu'il fait. On va continuer l'examen de conscience avec les chiffres maintenant. Alors, expérience, je suis désolé pour l'anglais, mais ça a été fait aussi en anglais volontairement. Vous allez voir pourquoi. Donc, c'est à peu près la même chose. On présente des lettres, puis un chiffre, de façon cachée, hein, parce qu'il est tout de suite coincé entre les chaînes, vous voyez. Et ce chiffre peut être soit en forme de chiffre, soit en forme de lettre, soit en anglais, soit en français. Donc, vous voyez, ça peut être compliqué. Et puis derrière, on va vous présenter un chiffre. Alors là, vous voyez franchement, parce qu'il n'y a plus rien derrière, là, il est égal à 6. Et le but du jeu, c'est que vous devez dire si le chiffre que vous voyez est plus grand ou plus petit que 5. C'est facile. Si c'est plus grand que 5, vous appuyez à droite sur un bouton de souris. Si c'est plus petit que 5, vous appuyez à gauche avec le bouton de souris. Alors si je vous dis 9, boum, 3, boum, et vous faites ça plein de fois. Mais pendant ce temps-là, je vous présente un chiffre là, subliminal. Et bien sûr, deux cas de figure peuvent se présenter. C'est ce que j'appellerais l'effet congruent, à savoir que le chiffre caché est lui-même du même côté. Donc là, 6 est plus grand que 5 et 9 est plus grand que 5. Mais on peut voir un effet incongruent. Dans ce cas, le chiffre caché, ici 1, est plus petit que 5, alors que le 6 que vous voyez est plus grand que 5. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, quand on enregistre l'activité électrique du cerveau, donc avant de faire de l'IRM, on s'aperçoit déjà qu'en moyenne, hein, c'est un effet extrêmement petit, il vous faut 20 un peu plus de 20 millièmes de seconde pour répondre que 6 est plus grand que 5 si on vous a caché un 3 avant. Autrement dit, le cerveau a hésité un petit peu, mais vous ne le savez pas. Alors qu'est-ce qu'on voit nous avec nos images indiscrètes? Eh bien, on s'est amusé à regarder la région qui commande le mouvement du pouce. Quand vous appuyez à gauche, c'est le côté droit qui est activé. En fait, un petit peu aussi à gauche, mais c'est surtout le côté droit. Quand vous appuyez à droite, c'est le côté gauche. Et on a essayé de comparer. Eh bien, ce qu'on a observé, c'est un peu compliqué, donc je vous résume. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que dans les essais incongruents, le cerveau avait commencé à préparer à faire une réponse dans votre dos. Donc je m'explique. Si je vous présente one de façon subliminale, donc vous ne voyez rien, eh bien votre cerveau a vu qu'il y avait one, a dit ça veut dire 1, a dit que c'était plus petit que 5, et a préparé votre pouce gauche et appuyé sur le bouton. Tout ça dans votre dos. Puis d'un seul coup apparaît 6. Et vous, tout naïvement, ben, vous appuyez avec le bouton droite. Voilà. Et nous, ce qu'on voit, c'est que le cerveau a commencé déjà à se programmer à répondre du côté gauche. Et brutalement, toute la programmation doit passer de l'autre côté. C'est pour ça qu'il y a un petit retard dans la réponse. Et vous voyez, on est capable aujourd'hui de voir ce genre de choses. Donc, je pourrais vous en parler pendant des nuits, hein, donc on ne va pas le faire. Mais on explore beaucoup de choses. Le calcul, par exemple, ce qui est très intéressant, c'est que si vous faites du calcul exact ou du calcul approximatif, ce n'est pas la même chose. Si je vous demande combien font 5 plus 4, eh bien vous allez activer cette région ici et celle-là. Si je vous demande simplement est-ce que 5 plus 4 est plus grand que 7, donc c'est très approximatif, vous voyez que vous allez activer d'autres régions, et en particulier des régions du côté droit du cerveau. Et ça, il y avait quelqu'un qui l'avait remarqué sans faire d'image, c'est M. Einstein, qui disait qu'intuitivement, il avait des intuitions mathématiques, mais que s'il n'arrivait pas à les exprimer sous forme d'équation, ça lui prenait du temps. Ben, et pour cause, c'est que c'est deux choses différentes qui impliquent des régions différentes du cerveau. Et ceci va me permettre de faire une transition sur la dernière partie qui est autre chose. Et vous voyez que je n'ai pas mis E égale MC2. J'ai mis une autre équation, parce qu'en 1905, Einstein a publié 4 articles, dont 2 lui ont valu deux fois le prix Nobel, même s'il n'a eu qu'une fois. Un de ses travaux porte sur la diffusion moléculaire. Alors la diffusion moléculaire, vous savez peut-être tout ce que c'est. Si je mets du vin dans de l'eau, vous voyez qu'il va y avoir un mélange. Eh bien, il est possible, c'est donc ça que j'ai développé depuis une quinzaine d'années maintenant, il est possible d'étudier par résonance magnétique non seulement les molécules d'eau qui s'aimantent, mais comment ces molécules d'eau bougent, comment elles diffusent sur des trajets qui sont de l'ordre du micron. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'imagerie de diffusion de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'imagerie de diffusion de l'eau? Donc, encore une fois, dans le cerveau, il y a plein d'eau. Ces molécules d'eau, elles bougent, elles se promènent. Et voilà une image, bon, elle est ancienne celle-ci, mais peu importe, qui montre une coupe du cerveau dans ce sens. Vous voyez donc la matière grise et la matière blanche. Et là, aux surprises, la matière blanche n'est pas blanche partout. Vous voyez qu'elle est blanche ici, sur mes images, mais ici, c'est de la matière blanche, et elle est noire. Alors, c'est de la matière noire dans le cerveau. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Ce qui se passe, c'est qu'on a mesuré le mouvement des molécules d'eau dans cette direction. Eh bien, il semblerait qu'ici, les molécules d'eau puissent bouger assez facilement, alors dans ce sens-là, alors que là, elles ne peuvent pas. Alors, l'explication, bon, je simplifie bien sûr à l'extrême, c'est que nous avons affaire, encore une fois, aux câbles qui relient les neurones entre eux. Eh bien, ces câbles, ce sont des tuyaux. Et l'eau, on peut comprendre qu'elle peut bouger assez facilement dans le sens de ces fibres, mais dans le sens contraire, c'est beaucoup plus difficile. Donc ici, en fait, on a affaire à ce qu'on appelle le corps calleux, donc une structure qui relie les deux hémisphères, qui est orientée comme ça. Les fibres vont de gauche à droite et droite à gauche. Donc les molécules d'eau, si on regarde comment elles bougent dans ce sens-là, ben, c'est plus dur. Alors que là, on a affaire au faisceau pyramidal, donc un autre faisceau sur cette planche, qui est aligné dans le sens de la mesure. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on avait découvert en 1990. Et bien sûr, on a tout de suite pensé que ben, voilà, on a trouvé un outil pour nous permettre de voir les câbles du cerveau. Et voilà ce qu'on sait faire aujourd'hui. Ça, c'est l'effet par l'école de John Hopkins à Baltimore. On est capable de voir, dans ce qu'on appelle le tronc cérébral au cervelet, toutes ces fibres, donc comment le cerveau va se connecter. Non seulement on voit les régions qui sont activées, mais on commence à voir les autoroutes de l'information qui permettent à tous ces neurones de se connecter. Voilà à peu près, c'est pour les cheveux du malade, c'est le corps calleux. Hein. Donc ce sont les fibres qui se croisent au centre du cerveau. Et chez un patient qui a une tumeur, on voit que par exemple ces fibres sont déplacées dans l'espace. Alors chez nous, Jean-François Mangin a mis au point aussi une autre méthode un peu différente qui permet de voir ces fibres en trois dimensions et en particulier donc de reconstituer sur un cerveau d'un de mes collègues les fibres. Vous voyez, donc on commence à être capable de non seulement de disséquer le cerveau virtuellement, mais de voir des choses extrêmement subtiles qui ne sont pas visibles, même si on dissèque le cerveau. Ça on n'est pas capable de voir ça. C'est quelque chose qui est presque fonctionnel. Alors, à quoi ça peut servir? Un des derniers exemples, parce que le temps passe. Il s'agit donc de reprendre maintenant ce que je vous ai dit sur l'activation du cerveau, mais d'y rajouter le câblage. Donc, imaginez que vous êtes en train de lire quelque chose qui est devant vous. Quand vous voyez quelque chose à gauche, je vous ai dit au début d'exposé que l'information visuelle arrive à droite. Donc quand vous regardez quelque chose, un mot qui est à gauche, il va activer la région visuelle qui est du côté droit. Si inversement, vous voyez un mot qui est à droite, il va se projeter du côté gauche du cerveau, donc arriver sur cette tache jaune ici. Alors quand on fait nos expériences, on voit bien, par exemple ici, que si on vous présente un mot du côté droit, l'activation visuelle, et puis, un peu plus en avant, une autre région, qui est la région qui sert à détecter les mots. C'est une région qui vous dit, ben, ce que tu as vu, c'est un mot. Voilà. Donc, l'information doit passer quelque part entre les deux. Inversement, si je montre le mot du côté gauche, eh bien, vous voyez qu'ici, la région visuelle est activée, et la région qui détecte les mots est activée aussi, mais l'information a dû croiser le cerveau. Elle est donc passée par cette structure dont j'ai parlé, qui est le corps calleux. Elle a dû croiser le cerveau. Tout ça, c'est normal. Mais on est tombé sur un patient de la Salpêtrière qui est alexique. On a vu les aphasiques, maintenant on voit les alexiques, on a vu les acalculiques. Donc A, ça veut dire qu'il n'est pas capable de faire quelque chose. Celui-là, il ne peut pas lire. En fait, il peut très bien lire, sauf si les mots sont présentés du côté gauche. Donc si on lui présente un mot à droite, pas de problème. Le mot à gauche, il ne voit rien. En fait, il voit. La preuve, c'est qu'on voit, nous, qu'il est activé sur le plan visuel, mais il ne peut pas dire que c'est un mot, parce que l'information, a priori, ne doit pas passer dans le corps calleux. Alors qu'ici, par contre, il n'y a pas de problème. Alors, sur les images d'IRM, pour un médecin, un radiologue, il devine déjà qu'il y a quelque chose d'anormal. Mais on va plus loin, puisque maintenant, on est capable de faire des cartes des fibres qui relient ces régions. Donc, en rouge, c'est ce qu'on espère chez le sujet normal, de la région visuelle à la région qui détecte les mots. Eh bien, en bleu clair, on a représenté les fibres qu'on a obtenues chez ce patient, et vous voyez que ça ne passe plus, c'est coupé. Donc, sur le plan, la région qui sert à détecter les mots marche normalement, la région qui sert à voir marche normalement, mais c'est le lien entre les deux qui est cassé. Alors, ce type de recherche et d'études commence à se faire dans des troubles, par exemple la dyslexie. On s'est aperçu que le cerveau est absolument normal, les gens sont normaux, mais il y a des régions où l'information ne passe plus parce que les câbles sont mal organisés. Dans la schizophrénie, on commence aussi à mettre en évidence des troubles de la connexion. Alors ceci est en train d'exploser, bien entendu, puisqu'on est maintenant capable, plus ou moins, de reconstituer le câblage du cerveau. Alors ça, c'est des expériences qui sont faites avec des aimants extrêmement puissants. On va voir ça dans très peu de temps, 9,4 Tesla, chez le chat. On est capable de stimuler visuellement un chat. Il est simplement endormi, on n'y touche pas plus. Hein. Et on voit donc à l'arrière de son cerveau les régions visuelles, mais on voit aussi le câblage, donc comment l'information visuelle rentre dans cette partie du cerveau et comment elle en sort. Donc, vous voyez que l'imagerie par résonance magnétique est devenue un instrument essentiel pour comprendre le cerveau, voir les neurones à l'action. Alors, notre rêve maintenant, ce que je vais vous décrire, c'est le futur. Qu'est-ce qu'on est en train de construire? Eh bien, jusqu'à présent, donc, on détecte l'activation cérébrale parce qu'il y a plus de sang qui arrive. Alors, je vous ai dit d'abord l'effet est retardé, on ne voit pas vraiment les neurones. En plus, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'effet il n'est pas forcément bien localisé. Parce que vous avez peut-être, je ne sais pas moi, 5000 neurones sur une certaine distance. Eh bien, quels que soient les neurones qui sont activés dans ce groupe de 5000, c'est la même petite artère qui va leur apporter du sang. Donc, l'effet n'est pas aussi localisé qu'on le voudrait. Alors, récemment, là, avec une autre de mes élèves, Anne Darquier, on a découvert quelque chose de nouveau, à savoir qu'on est capable de détecter l'activation du cerveau, ici, encore une fois, dans les régions visuelles, en observant le mouvement des molécules d'eau. Toujours l'eau, hein, c'est vraiment le fil rouge de mon exposé. Eh bien, en effet, on s'aperçoit que quand le cerveau est activé, les molécules d'eau ralentissent. Alors, pourquoi elles ralentissent? On n'a pas complètement prouvé, on a quand même de bons arguments. Eh bien, il semblerait que les neurones qui sont activés gonflent. Alors, ne me dites pas que c'est pour ça que vous avez mal à la tête quand vous travaillez trop, mais les neurones gonflent de 1 à 2%. Ça, c'est apparemment démontré quand même, mais le lien n'est pas évident. Et ce gonflement des neurones serait responsable du fait que les molécules d'eau ont plus de mal pour bouger, et ça se verrait sur ces images. Donc, vous voyez, est-ce qu'on va arriver à voir les neurones directement, voir leurs connexions, voir comment le cerveau se construit? Ce sont des images de souris obtenues à 13 jours après conception. Et c'est mes collègues de Caltech qui ont fait ça. On peut montrer en marquant une cellule, voir quelle est le devenir de cette cellule dans le cerveau, comment elle va bouger. Donc chez l'homme, je vous ai montré, plutôt chez le bébé, ce qui se passe. Voir les gènes à l'action. Le cerveau, c'est vrai que c'est essentiellement l'environnement, la plasticité, etc. Mais il y a quand même un programme génétique à la base. Et on commence à savoir faire ce qu'on appelle des agents intelligents qui sont capables de vous dire si dans un certain nombre de cellules, il y a un gène qui est exprimé ou pas. Et puis, c'est vrai que l'eau, c'est vraiment important, mais il y a d'autres molécules que l'eau. Je vous ai parlé des neuromédiateurs. On est capable aussi, par résonance magnétique, maintenant, d'étudier d'autres médiateurs. Alors, le futur, c'est d'avoir cette machine de rêve qui va nous permettre d'aller encore plus loin dans l'exploration du cerveau. Et donc, c'est la course vers les très hauts champs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les très hauts champs? Eh bien, c'est de pouvoir repousser les limites physiques. En gros, les images que je vous ai montrées ont une précision de l'ordre de 1 mm ou un petit peu moins. On voudrait descendre à quelques dizaines de microns. Les images, on les obtient en une seconde. On voudrait les obtenir en 10 fois moins de temps, etc., etc. Alors, comment faire? Eh bien, la règle, c'est simple, c'est que plus le champ magnétique va être intense, plus le signal qu'on va récupérer va être important, et plus on verra de détails. Autrement dit, on veut faire une sorte de microscope. Voilà un aimant tout à fait classique qu'on trouve en milieu hospitalier. Cet aimant opère à 1,5 Tesla. Alors, je vous ai mis ici qu'un Tesla, c'est 10 000 Gauss. Et le champ magnétique qui fait dévier votre boussole à Paris est de 0,5 Gauss. Voilà. Donc, vous voyez que le champ magnétique produit par cet aimant est 30 000 fois supérieur au champ magnétique à Paris. Ça, c'est une machine standard. À Orsay, nous avons la chance, il y en a 4 comme ça en France, d'avoir une machine qui fonctionne à un champ 2 fois plus grand, à 3 Tesla. Donc tous les résultats que je vous ai montrés aujourd'hui ont été obtenus avec cette machine, pratiquement. Aux États-Unis, il commence à y avoir des aimants encore plus puissants qui fonctionnent à 7 Tesla et plus. Il y en a 3 d'installés. Donc vous voyez, ça fait 140 000 fois le champ magnétique terrestre. Alors j'ai réussi quand même à convaincre un certain nombre de mes collègues et surtout les structures administratives à construire un nouvel institut de recherche qu'on a appelé Neurospin, qui va nous permettre de coupler la physique au cerveau, de construire donc des aimants du futur avec des champs magnétiques encore plus importants, puisque nous visons plus de 10 Tesla, pour pouvoir donc avoir des informations extrêmement précieuses qu'on n'a pas aujourd'hui sur le cerveau humain. Et tout ceci, bien sûr, c'est un travail d'équipe. Je vous ai cité au fur et à mesure les collègues de mon équipe, mais là, il va falloir encore beaucoup plus de monde, des spécialistes, des physiciens, électroniciens, spécialistes des méthodes de radiofréquence, je parle des ondes radio, des aimants, des gens spécialistes d'informatique pour pouvoir décortiquer le fonctionnement cérébral, trouver ce fameux code neural, et bien sûr, des médecins et des biologistes. Voilà. Donc j'espère qu'avec tout ça, je serai convaincu que le siècle qui commence, c'est un autre défi pour l'homme. Est-ce que l'homme va arriver à connaître son propre cerveau? Donc c'est grâce à des instruments modernes qui vont petit à petit se construire qu'on aura peut-être la chance de découvrir notre cerveau et d'avoir des surprises, bonnes ou mauvaises, on verra bien. Voilà, je vous remercie beaucoup.
J'aurais voulu savoir ce qui se passait dans notre cerveau quand on mentait.
Bon, et c'est clair, je n'ai pas pu tout vous montrer. D'un autre côté, on ne peut pas tout étudier nous-mêmes, mais c'est une question qui a été étudiée par un groupe aux États-Unis, et ils ont en particulier montré qu'il y avait deux réseaux différents selon qu'on avait de vrais souvenirs ou de faux souvenirs. Voilà, de là à faire des machines à détecter le mensonge, j'en sais rien. Mais quand vous souvenez de choses qui se sont réellement passées, vous activez un certain nombre de régions cérébrales. Quand vous trichez, alors quand vous dites vous souvenir de choses que vous créez, en fait, vous activez d'autres régions. Donc, on en est là pour l'instant.
Vous avez montré que les cerveaux étaient différents pour différentes personnes, c'est-à-dire que le centre de la parole n'était pas au même endroit. Et ensuite, vous avez montré que pour les hommes et pour les femmes, c'était différent. Comment faites-vous pour moyenner sur toutes ces différences? C'est-à-dire que ce que vous nous avez montré en disant il y a telle chose qui se passe ici, telle chose qui se passe là, est-ce que vous devez passer des vingtaines de personnes pour être sûr que vous avez vraiment trouvé la vraie région ou que c'est spécial à un être humain particulier?
C'est vraiment une excellente question. C'est un souci majeur et c'est même un sujet de recherche. Tout ce que je vous ai montré, ce sont des résultats moyens. C'est-à-dire qu'on va passer 12 sujets, 12 volontaires, c'est peut-être un nombre magique. En fait, c'est simplement qu'on cherche à avoir statistiquement quelque chose de fiable et on va regarder ce qui est commun à ces 12 sujets. Alors là, il y a un premier problème, c'est qu'il faut comparer des cerveaux entre eux. Or, le câblage est différent, l'anatomie est différente. Donc, une région qui est à un endroit précis chez une personne, la région de Broca, est peut-être un centimètre plus loin chez une autre personne. Comment faire pour dire que c'est la même région ? C'est très difficile. Alors aujourd'hui, on a des outils informatiques qui en gros déforment les cerveaux. Donc on prend un cerveau typique, une référence, qui est en général l'atlas de M. Talleyrac, un ancien neurochirurgien de Sainte-Anne, et on essaye de faire rentrer tous les cerveaux dans cette boîte, et c'est pour ça qu'on peut avoir une très grande précision. Donc c'est ça qui est fait aujourd'hui. Donc, mais en faisant ça, on se prive automatiquement d'études de la variation. Donc, par exemple, quand je compare les hommes et les femmes, bon, c'est pas moi qui ai fait le travail, c'est un groupe aux États-Unis. Ils ont passé 18 hommes, ils les ont moyennés. Ils ont passé 18 femmes, ils les ont moyennés. Et entre les deux moyennes, il y avait une différence. Voilà ce qu'ils ont fait. Entre nous, je suis pas sûr que la conclusion soit réelle. Enfin, peu importe. Le futur, c'est de pouvoir dire, eh ben, voilà, ça s'active ici chez M. X et là chez M. Y, parce qu'ils ont une stratégie intellectuelle différente. Mais c'est le tout début de ce genre de recherche. On ne sait pas encore vraiment comment faire. Il y a des théories qui sont en train de se développer. Parce que souvent, ce qui varie d'un sujet à l'autre, ce n'est pas qu'ils pensent différemment, c'est qu'il y a des problèmes dans nos images, du bruit, et il faut aussi l'éliminer. Mais c'est un sujet d'actualité.
Oui, monsieur, vous nous avez parlé tout à l'heure de régions spécialisées dans le cerveau. Est-ce qu'on peut distinguer à l'étude une différence entre... par exemple, celui qui possède la bosse des maths et celui qui a des difficultés énormes pour pouvoir travailler sur ce domaine. Et deuxième question, est-ce que vous pouvez nous parler des rêves ?
Oui. Alors déjà, je vais vous faire un peu de publicité. Si vous vous intéressez à la bosse des maths, vous pouvez acheter le livre de Stanislas Dehaene qui s'appelle « La bosse des maths » chez Odile Jacob, qui vous explique comment les bébés comptent, comment les animaux peuvent éventuellement faire du calcul. C'est un livre extrêmement plaisant à lire. Alors effectivement, sans savoir si aujourd'hui quelqu'un est doué pour les maths ou je sais pas quoi, des études ont montré que quand on met ensemble un certain nombre de gens, par exemple des pianistes ou des gens qui sont spécialisés dans une tâche, on a vu aussi des calculateurs prodiges, eh bien ils ont une région du cerveau qui s'hypertrophie. Ça, c'est observé. Il y a toujours la même région qui vient, ce qui est le planum temporalé, ce qui me fait penser que finalement, ce n'est peut-être pas parce que cette région est hypertrophiée qu'ils sont spécialistes dans quelque chose, mais c'est parce qu'ils sont spécialistes dans quelque chose que cette région s'est hypertrophiée. Donc, on ne sait pas très bien l'origine. Donc, je ferai un petit peu la même réponse qu'à la personne de tout à l'heure, c'est que pour être capable de différencier de deux personnes, il va falloir être capable donc d'être absolument sûr de ce que l'on voit dans le cerveau. Et on n'y est pas encore. Pour les rêves, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ça fait longtemps que je voudrais pouvoir voir ce qui se passe quand on rêve. C'est un peu pour ça, parce que la question arrive tout le temps, que je vous ai apporté la petite cassette. Pour rêver dans ces conditions-là, il faut le faire quand même. Donc, vous êtes au milieu d'un aimant complètement allongé. Bon, les gens ne sont pas trop rassurés, mais en plus, avec 120 décibels dans les oreilles, c'est dur. Voilà, ça, c'est le premier problème. Moi, j'y arrive maintenant à dormir, mais bon, il a fallu du temps. Deuxième problème, c'est que comment savoir que vous rêvez ? Parce qu'on peut dormir sans rêver. Comme vous le savez peut-être, il faut pouvoir enregistrer le signal électroencéphalographique en même temps. Et le rêve, c'est la période pendant laquelle le signal électroencéphalographique est très agité, un peu comme même plus que pendant l'état de veille. Donc, enregistrer ces signaux électriques dans un aimant, c'est très difficile. On commence depuis quelques années à savoir le faire et on est en train, dans mon laboratoire, de se lancer dans cette opération, de pouvoir enregistrer des signaux électriques pendant ces expériences d'imagerie fonctionnelle. Donc le rêve viendra peut-être un jour, mais on n'y est pas encore. Voilà.
Vous avez parlé de maladies assez invalidantes. Vous avez dit qu'on pouvait les examiner par IRM, schizophrénie, épilepsie et autres. J'aurais voulu savoir, c'est une question très précise, si dans le cas de la névrose obsessionnelle, c'est-à-dire les troubles obsessionnels compulsifs, vous avez déjà eu à examiner des patients par IRM, et si vous avez découvert qu'il existait des dysfonctionnements au niveau des neurotransmetteurs, notamment la sérotonine.
Alors oui, ça aussi c'est un point extrêmement important. Déjà, je dois dire que j'ai essayé de mettre une barrière dans mon exposé entre ce qui était de pratique quotidienne et de ce qui était de la recherche. Aujourd'hui, on est absolument incapable, avec ces techniques, de placer un patient psychiatrique dans l'aimant. Déjà, ce n'est pas évident, si vous prenez un patient schizophrénique, de le faire rester dans l'aimant le temps qu'il faut. Une expérience, ça prend une heure à peu près. Hein. Donc c'est de la recherche. Hein. On n'a pas encore la capacité de pouvoir dire, ben, monsieur, vous êtes schizophrène, parce qu'on a vu sur nos images, on n'en est pas là. Je pense qu'un jour, on arrivera à quelque chose comme ça. C'est bien sûr un peu l'objectif, mais ce n'est pas le cas. Par contre, dans les recherches qui ont été faites, alors, en utilisant la résonance magnétique, certains collègues de Boston ont étudié les désordres compulsifs, les obsessions, et se sont aperçus effectivement qu'il y aurait des circuits qui s'emballent ou qui sont plus activés que dans la population normale. Bon, ça, il n'y a qu'un article, je ne suis pas sûr qu'il faut vraiment s'accrocher dessus. En ce qui concerne les neurotransmetteurs, ce n'est pas étudié avec la résonance magnétique, c'est étudié par la caméra à émission de positons. Et là, il y a des travaux, effectivement. Dans notre laboratoire, il y a l'équipe du docteur Martineau qui s'intéresse en particulier à la schizophrénie ou à d'autres maladies et qui essaye de voir les variances dans la carte des neuromédiateurs. L'autisme est tellement étudié par le docteur Zibovicius chez nous. Elle essaye de voir s'il y a des anomalies fonctionnelles et anatomiques, mais souvent on ne voit rien sur le plan anatomique, qui pourraient expliquer ces maladies. Mais encore une fois, je le dis parce qu'il ne faut pas donner de faux espoirs, ça reste encore de la recherche. On essaie de trouver par ces images une origine ou une explication à ces troubles fonctionnels pour pouvoir aider plus tard le psychiatre à faire un diagnostic et bien sûr à trouver une thérapeutique.
Est-ce que, Monsieur Bévet, infirmier, est-ce que vous avez mis en évidence dans vos examens des séquelles d'anoxie prolongées, notamment des malades qui ont été sous respirateur, avec des points de comparaison pour des malades mis sous tel type de respirateur et tel type de ventilation, ou des malades qui ont été mis sous respirateur pour une intoxication quelconque, et faire des points de comparaison soit pour telle méthode d'anesthésie, soit pour des séquelles strictement neurologiques de vos études.
Oui, c'est effectivement intéressant, mais à ma connaissance, ça n'a jamais été fait pour l'instant. Par contre, ce qui a été fait, c'est non pas sur le plan fonctionnel, mais sur le plan anatomique, chez des patients qui ont souffert d'anoxie trop prolongée, on s'aperçoit que c'est un peu comme une artère qui s'est bouchée, hein, si je simplifie, mais dans les régions correspondantes, la méthode que j'ai inventée il y a 15 ans permet de voir que les molécules d'eau sont ralenties parce que les cellules sont mortes ou en train de mourir. Donc ça s'est fait. Mais ce n'est pas du tout utilisé en routine pour ces applications-là. C'est utilisé en routine aujourd'hui, avec beaucoup de retard en France, malheureusement, mais enfin, c'est comme ça, pour le diagnostic de l'infarctus cérébral à la phase aiguë. Ce que ça apporte, c'est qu'autrefois, quand une personne avait un infarctus bouché à une artère, on ne se précipitait pas trop parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, et surtout, on ne pouvait pas voir la lésion tôt. Les images anormales en scanner et en IRM normales prennent beaucoup de temps à devenir anormales. Avec l'imagerie de diffusion, eh bien, on peut montrer que dans les minutes qui suivent l'occlusion de l'artère, il y a une anomalie. Hein, donc dans les modèles animaux, c'est même les secondes. Donc c'est extrêmement précoce. Et on peut commencer déjà en comparant la souffrance cérébrale dans la région qui est en train d'être atteinte et le débit sanguin qui est autour, à pouvoir dire au neurologue, bon ben là, c'est pas la peine, c'est mort, il n'y a plus rien à faire. Ou au contraire, là, il y a une zone qui est morte, mais autour, c'est en train de souffrir, mais ça peut être récupéré. Il faut être extrêmement actif et éventuellement donner un médicament comme un thrombolytique qui peut être risqué chez n'importe qui, mais qui, dans, chez ce patient bien particulier, peut lui permettre de sauver une partie de son cerveau. Donc, ces techniques d'imagerie, elles ont pour rôle, en gros, d'adapter des thérapeutiques à la carte. C'est-à-dire pouvoir qu'un malade donné ait son traitement à lui, parce qu'on sait qu'il se passe exactement ça dans sa tête.
Est-ce qu'une étude est en cours pour essayer de communiquer avec un patient dans le coma et pour essayer de, si je peux dire, de pénétrer dans le monde où il voyage?
À ma connaissance, rien n'a été en tout cas publié, j'en suis sûr, fait, je ne crois pas. Le problème, c'est que, vu le champ magnétique, je n'en ai pas parlé, on ne m'a pas posé encore la question, mais ça va venir des dangers des champs magnétiques. Mais le danger principal, c'est les objets qu'on va trouver dans la poche des infirmières, des manipulateurs, etc. Le stylo à billes qui va partir à une vitesse considérable, se planter au milieu de l'aimant, hein, attiré par le champ magnétique, et éventuellement tuer la personne qui est au milieu. Tous les ans, il y a des accidents mortels à cause de ce genre de situation. Donc c'est ça le danger. Soit que l'objet magnétique vienne du personnel qui est autour, bon, bien sûr, normalement, ça ne doit pas arriver, tout le monde est formé, etc., mais bon, ça, la nature humaine fait que de temps en temps, ça dérape. Ou inversement, que le patient lui-même soit porteur d'objets magnétiques. Le pire, qui maintenant, normalement, ne se voit plus, c'est qu'autrefois, les neurochirurgiens, pour faire l'hémostase, donc pour arrêter la circulation dans une petite artère où ils sont en train de travailler, mettre une petite pince à linge, je l'appelle un clip, qui est métallique. Et après, on les garde. Donc, un patient qui a un clip neurochirurgical qui rentre dans l'aimant, c'est la mort instantanée. Hein. C'est clair que le clip se déplace, c'est terminé. Donc, maintenant, on fait des clips qui ne sont plus ferromagnétiques, et les neurochirurgiens le savent. Donc, un patient dans le coma qui est sous respirateur, intubé, ventilé, tout ce que vous voulez, il ne peut pas rentrer dans l'aimant, par définition. Donc, c'est sans doute pour ça que toutes ces études ne sont pas possibles, pour l'instant.
Vous nous parlez de mesures qui sont faites essentiellement sur l'eau dans le cerveau, dans l'entourage du neurone, du métabolisme, du flux sanguin autour du neurone. Qu'est-ce qui se passe exactement dans le neurone? Est-ce qu'on a la corrélation entre les phénomènes que vous imagez et le phénomène dans le neurone ou dans le contact entre deux neurones?
Alors ça aussi, c'est un point qui nous stimule en permanence. Quand ces techniques se sont apparues, donc il y a une dizaine d'années, j'étais aux États-Unis, on était trois labos à faire ça à peu près en même temps. Nous, on a eu votre réaction en disant, mais bon, qu'est-ce qu'on mesure vraiment? Est-ce que c'est valide? C'est pour ça que ces expériences où on bouge les doigts, où on voit donc le cerveau qui est en train de voir, le but, c'était de pouvoir valider que ce qu'on voyait, ça correspondait à peu près à nos connaissances. Mais il y a eu un raz-de-marée derrière des neurobiologistes qui connaissent absolument rien à la physique du problème, qui sont tout de suite emparés de la méthode et l'ont appliqué. Le nombre d'articles publiés aujourd'hui est considérable. Voilà, donc ça nous a un peu échappé, mais Dieu merci, on s'est aperçu qu'on ne faisait pas n'importe quoi. Il y a un article que je vous conseille, si vous êtes un peu spécialiste, qui est celui de M. Logothetis, qui est sorti dans Nature en juillet 2001, et qui a enregistré chez l'animal, chez le singe, des neurones en train de s'activer, et qui a fait en même temps ces images. Et s'est aperçu qu'il y avait une corrélation extrêmement forte entre l'activité réelle électrique des neurones et les images que l'on voit. Alors en fait, pour être exact, ce qu'il a montré, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas trop, je rentre un tout petit peu dans le détail, les neurones, donc, qu'est-ce qu'ils font? Donc ils ont 10 000 connexions. Ils reçoivent en permanence des stimulations positives ou négatives des copains. Et puis ils intègrent tout ça, et puis quand ça sent un petit peu trop le positif ou trop de négatif, ils décident de faire quelque chose, et ils émettent ce qu'on appelle un potentiel d'action, donc ils vont envoyer un courant qui va se propager dans ce filament pour atteindre le neurone d'à côté, qui prend le relais et qui s'occupe du bébé. C'est comme ça que ça marche, en gros, le cerveau. Je simplifie, bien entendu. Voilà. Donc, ce qu'a montré Logothetis, c'est que ce qu'on verrait serait plutôt corrélé à l'effet d'intégration des neurones qu'à l'émission de ces potentiels d'action. Voilà. Et pour lui, c'est même encore mieux, parce que ce qu'on voit, c'est vraiment le travail dans les neurones. Bon, mais ça n'empêche pas que moi, ça ne me satisfait pas. Je suis d'accord avec vous que j'ai préféré voir vraiment ce qui se passe dans le neurone plutôt que des tuyaux qui sont... Certains disent, mais c'est très joli comme image, qu'aujourd'hui la situation est que vous avez un jardin avec des parterres de fleurs, vous voulez voir les fleurs mais vous n'avez aucun moyen. Et ce qu'on fait, c'est qu'on regarde où arrose le jardinier. Donc si le jardinier arrose dans ce coin-là, c'est qu'il y a d'ailleurs de super fleurs. S'il arrose là, il y en a, s'il arrose pas au bout, c'est... donc ça n'a pas très intéressant. C'est en gros ce qui se passe. C'est pour ça que je vous ai montré cette expérience qui vient d'être publiée dans l'Académie des sciences américaines par nous, hein, l'année dernière, où il semblerait qu'on puisse voir le gonflement des neurones qui résulte de l'intégration. Là, on verrait directement, via le mouvement des molécules d'eau, quelque chose qui a un rapport avec le neurone lui-même. Bon, c'est le premier travail, ça a été reproduit maintenant aux États-Unis. Il faut prouver tout ça, ça va prendre encore 10 ans, hein, mais c'est notre objectif, effectivement, de voir vraiment ce qui se passe dans les neurones et pas ce qui se passe autour. Et pas que ce qui se passe autour.
Est-ce qu'il y a eu des études de fait pharmacologiques, et en particulier avec les anesthésiques généraux?
Sur le plan de l'activation ou sur le plan de la neurochimie? Sur le plan de la neurochimie, il y a des choses qui ont été faites, effectivement. Sur le plan fonctionnel, pas à ma connaissance.
Denis Le Billon, je vous remercie.